Donc, page 148. La page 148, on va faire un petit cours sur la paracha de Bo, avec le commentaire de Rashi. Donc, dans la paracha de Bo, il nous reste, page 148, le début de la paracha de Bo. Dans la paracha de Bo, il nous reste 3 plaies encore. Sur les 10 plaies, il y a déjà 7 qui ont été données dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha Va'era. Et dans la paracha Bo, d'ailleurs, pour vous rappeler, c'est très facile. Bo, c'est Bet Aleph. Ça veut dire Bet, c'est 2, et Aleph, c'est 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Voilà, c'est un signe que j'ai appris quand j'étais enfant, je me rappelle encore aujourd'hui. C'est un signe très simple. Voilà, c'est un mnémotechnique pour se rappeler que dans la paracha Bo, il reste les 3 dernières plaies. Bon. Alors, on va lire ensemble, donc, bien sûr, la question que tout le monde se pose. D'accord, la question que tu... Merci beaucoup. C'est pour moi ? Oui. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour le mérite. C'est Rosh Chodesh. C'est qui ? C'est Monsieur Hakoun ? Ah, il fait la mida. D'accord, bon. Donc, j'étais en train de dire, on se pose, tous les commentateurs se posent la question, comment ça se fait qu'on a fait cette différenciation ? Dans la première paracha, 7 plaies, dans la deuxième, 3. Ça veut dire qu'il y a clairement une nouvelle catégorie. C'est pas pour rien qu'on les amène dans une nouvelle paracha. On est bien d'accord. Bon. Donc, on va voir que à partir de la plaie qu'on va parler ici, dans la paracha de Bo, la plaie de Harbé, il va y avoir quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui va réussir à déstabiliser Paro pour la première fois. Et on va essayer, de voir ensemble. D'ailleurs, vous verrez, on verra dans la suite, que c'est la première fois que ses esclaves se sont révoltés contre lui. Ils ont dit, mais ça y est, ça suffit. Mais c'est, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'à partir de là, on rentre dans une nouvelle paracha, parce que la paracha de Bo, c'est la paracha qui va marquer également la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'on est encore dans les plaies, Paro n'a pas encore dit oui, mais il a presque dit oui. Il y est presque. D'accord ? Donc on va lire ensemble les versets. Premier verset de la paracha de Bo. Vayomer Hashem et Moshe, c'est bon ? On y va, monsieur. Vayomer Hashem et Moshe, Bo El Paro. Dieu dit à Moshe, Bo El Paro, viens chez Paro. Qui Ani, pourquoi vient chez Paro? Il donne une raison. C'est la première fois qu'il donne une raison d'ailleurs. On va essayer de développer ça. Comment ça se fait qu'il donne une raison? A priori, il vient chez... pourquoi d'après vous Moshe Rabbeinu va chez Paro? Allez messieurs, on se réveille. Pourquoi Moshe Rabbeinu va chez Paro?
Comme tout pour annoncer.
Comme toutes les fois. Pour annoncer, pour demander, dit voilà, ultimatum, tu libères mon peuple, d'accord? Ou bien il va y avoir telle plaie. Non, écoutez bien, il va donner une raison là. Il va dire, Bo El Paro, c'est pour nous deux. D'accord, viens chez Paro, pourquoi? Il nous dit le pasouk, Kiani Irbati, Et Libo Vetlev Avadav. Car moi, Hachem, j'ai alourdi, donc comprenez, endurci, le cœur de Paro et le cœur de ses esclaves. Ah, là on a quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'on nous parle de ses esclaves. Non, les esclaves, c'est-à-dire ceux qui l'entourent. D'accord, c'est sujet.
Même ses ministres, même ses...
Tout le monde.
Des Égyptiens.
Les Ma'an, Chiti, Ototai et les Bekirbo. Et là, Dieu dit, j'ai envie, afin de montrer mes signes, Bekirbo dans son peuple. Bon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe Rabbeinu, allez messieurs, Akadosh Baruch Hu fait comprendre à Moshe Rabbeinu, il dit que là maintenant, ça va devenir sérieux. Là maintenant, c'est la touche finale, d'accord? C'est comme on aurait dit le point d'orgue, d'accord? Dernière ligne droite avec laquelle on va sortir. Alors c'est pas exactement la dernière ligne droite puisqu'il reste encore 3 plaies. Alors il y a une question très simple que tous les commentateurs se posent. Une question très simple. D'accord? On va pas rentrer dans la théologie, mais une question très simple. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, viens chez Paro parce que je lui ai endurci son cœur. Est-ce que vous voyez un problème? Non, d'abord, on verra après pourquoi il a endurci son cœur, mais d'abord, il y a une question très simple.
C'est pas une raison.
D'accord? D'abord, c'est pas une raison. Très bien. Ça devrait être l'inverse. Non, mais pourquoi tu vas le voir? Va chez Paro parce que je lui ai endurci le cœur, mais c'est très bien qu'il va te dire non. À quoi tu joues? Pourquoi on fait ça?
Ça sert à rien de lui annoncer.
Va chez ton patron, d'accord, il t'embauchera pas.
Voilà. Va le voir, il te dira non, mais va le voir. Alors pourquoi je vais le voir? Il est sûr qu'il te dira non. Pourquoi tu vas le voir alors? C'est méchant.
Surtout que c'est la raison.
C'est méchant. C'est très méchant. Tu vas voir quelqu'un. C'est comme si, imaginez-vous, je sais quelqu'un qui n'a pas à manger à la maison, je viens chez lui, je lui dis t'as pas à manger pour moi. Mais il n'aura pas à manger pour toi, t'inquiète pas.
Mais là, depuis le départ, on voit que c'est un jeu. Depuis le départ, on voit que c'est un jeu.
Oui, c'est un jeu, certes. Mais là, le chidouche, la nouveauté qu'il y a dans cette paracha, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, il y avait un ultimatum. Dieu disait à Moshe Rabbeinu, va dire à Paro, libère, sinon, d'accord, il y aura ci qui va se passer, etc. En fait, la vérité, c'est que c'était pas toujours des ultimatums. On avait deux catégories de plaies jusqu'à maintenant. On avait des plaies qui étaient liées à une prévention, c'est-à-dire que dans lesquelles Dieu disait à Moshe Rabbeinu, va lui dire, préviens-le, si telle date, ça s'est pas arrangé, il y aura la plaie. Et il y avait d'autres plaies dans lesquelles Dieu disait, puisque tu ne les as pas encore envoyées, donc j'enverrai la plaie. C'était pas une prévention. Mais quoi qu'il en soit, le chidouche qu'on a ici, et bon, j'ai à peu près ici, il y a une dizaine de commentateurs qui en parlent. La grande question que tout le monde se pose, c'est à quoi bon? D'abord, premièrement, la question que Charlie a posée. Il a dit, ça veut dire quoi que Dieu a endurci le cœur de Pharaon? Ça veut dire qu'il n'a plus de libre arbitre. Ça, c'est un premier point. Bon, c'est un premier point qu'on va devoir étudier, ça. Et il y a un deuxième point aussi, c'est puisque de toutes les façons Dieu a endurci le cœur de Pharaon, à quoi bon? D'aller le prévenir. Ne lui dis rien, à la limite. C'est toi, ça va. De toute façon, il dira non. À quoi ça sert d'aller le prévenir?
Il aurait pu croire que c'est naturel aussi, si on ne prévient pas, c'est pas un miracle.
Très bien, bonne question, bonne réponse. Alors je vais amener d'abord deux réponses principales, qui sont ramenées par d'autres commentateurs, mais deux réponses principales, du Or HaChaim à Kadosh et du Sforno. Et je vais montrer les problèmes qu'il y a dans ces deux réponses, enfin les problèmes, et on va expliquer pourquoi Rashi n'a pas choisi ces deux réponses, et après on lira ensemble le commentaire de Rashi. Mais c'est important pour moi de donner d'abord ces deux réponses, après de lire le commentaire de Rashi, parce que sinon on ne comprendra pas ce que Rashi veut dire. Ah, je vous dis, dans ce Rashi là, on a 5 mots. Mais celui qui, si vous lisez la traduction de Rashi, vous allez croire qu'il est venu pour rien dire. C'est pour ça que je peux pas vous le dire maintenant. D'accord? Donc d'abord, je dois vous donner les deux commentaires du Sforno et du Or HaChaim. On va commencer par le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit, donc il pose la question qu'on a posée, il dit, à quoi bon de prévenir Paro, puisque de toutes les façons, on sait qu'il dira non. À quoi ça sert de l'embêter? Pourquoi tu l'embêtes? Pourquoi tu fais ça? Donc l'Or HaChaim HaKadosh dit comme ça, dit qu'en vérité, le but de ce que Kadosh Baruch Hu est en train de dire à Moshe Rabbeinu, c'était de rassurer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Puisque Moshe Rabbeinu commençait quelque part à douter de son message. Ben oui, d'accord. Mais pas seulement à s'énerver envers Paro, pas envers Kadosh Baruch Hu, mais il commençait à douter. Tu sais, on vous envoie en mission, vous essayez une fois, deux fois, trois fois, on vous prévient que ça va être dur. Mais quand ça fait 7 fois que vous avez essayé et que ça n'a pas marché,
c'est fatigué.
D'accord, 7 fois, c'est 7 mois.
Ouais, mais quand même, c'est Dieu qui l'envoie.
Hein, je sais.
Non, mais il y a
7 fois, c'est 7 mois, parce que chaque plaie, il y avait 3, dans chaque plaie, il y avait 3 semaines. 3 semaines d'annonce, d'accord?
Hyper patience.
Alors, c'est pas seulement, non, c'est pas ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Explique le Rachaim HaKadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, pas seulement Moshe Rabbeinu, le âme Israël commençait à douter. Il dit, attends. C'est vrai, on sent qu'il y a des phénomènes surnaturels ici, des choses qui sont des phénomènes miraculeux, mais il y a un problème. On voit pas l'issue. Alors où on va comme ça? Combien de temps on va pousser ça? D'accord? Il y a un problème. Alors, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, dit le Rachaim HaKadosh, vient ici rassurer Moshe Rabbeinu et l'homme Israël. Ne vous inquiétez pas. Vous savez pourquoi il est têtu? C'est moi qui l'ai endurci son cœur. En vérité, il a déjà craqué. Mais c'est à cause de moi qu'il craque pas. Donc en autre temps, vous inquiétez pas. Ne croyez pas qu'il a pas craqué. C'est quoi le piège? Oui, il a pas craqué. S'il a pas craqué avec tout ça, comment il craquera? Ne vous inquiétez pas, il a déjà craqué. Mais moi, c'est moi qui endurcis son cœur pour qu'il ne craque pas. Donc le jour où j'enlève cette protection, il va s'effondrer comme de l'eau. Bon, ça c'est la réponse sur Rachaim HaKadosh. C'est une réponse intéressante.
Et le but?
Ah, on va y arriver. C'est une réponse intéressante, sauf que cette réponse-là, c'est une réponse qui marche bien pour le Midrash, mais dans le verset, dans les mots du verset, ça ne rentre pas. Puisque le verset a dit, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va voir Pharaon parce que je lui ai endurci son cœur. Donc c'est rien de tout ce qu'on vient de dire. C'est pas, je te rassure, t'inquiète pas, tout ira bien. Il est en train de lui expliquer pourquoi tu dois aller par eux, parce que je l'ai endurci son cœur. Donc on a la question de M. Bisput qui a dit, mais la raison pour laquelle il va voir par eux, c'est pas parce qu'il a endurci le cœur. Qui en hébreu, c'est-à-dire parce que. D'accord? Donc on a une première réponse, qui est une réponse très intéressante, qu'on va garder, mais qui n'est pas la réponse de Rashi. Donc en autre terme, la réponse du Or HaChaim, pourquoi ici Dieu dit à Moshe Rabbeinu, rappelle à Moshe Rabbeinu qu'il a endurci le cœur de Pharaon, c'est pour le rassurer. Pour lui dire, tu sais, Paro fait de la résistance, mais c'est de ma faute, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui est fort, c'est moi qui est fort ici. On a la réponse du Sforno. La réponse du Sforno qu'a dit Michel, très bonne réponse aussi. D'accord? C'est quoi la réponse du Sforno? La réponse du Sforno, c'est très simple, c'est que si tu ne préviens pas avant d'envoyer la plaie, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire oui, c'est un phénomène naturel.
Il n'y a aucun miracle.
D'accord? C'est un phénomène naturel. Voilà, aujourd'hui, ils disent que la traversée de la mer Rouge, que la mer se lève, c'est un phénomène naturel. Sauf que quand t'as prévenu avant et tu dis ça va arriver à telle heure, là, ça peut plus être un phénomène naturel.
Mais il faut dire que la plaie d'avant, il n'avait pas prévenu.
Bien, très bien. D'accord. Donc, explique le Sforno. Il dit, c'est très simple. Il dit, tu sais pourquoi ici on te rappelle que qu'Akadosh Baruch Hu va endurcir le cœur de Pharaon. Et pourquoi on va le prévenir? La question qu'on a posée, pourquoi aller prévenir quelqu'un alors que tu sais qu'il va dire non? C'est très simple, je sais qu'il va dire non. Mais je veux qu'il le sache que c'est à cause de moi que ça lui arrive. Ça c'est la réponse, ça c'est la réponse du Sfard. C'est une réponse aussi intéressante. Mais c'est une réponse que Rashi n'acceptera pas. Pourquoi Rashi n'accepte pas? Rashi n'accepte pas cette réponse parce que pour Rashi, ici on a un caractère nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans cette plaie. Dans la plaie de Harbé, des sauterelles, il y a quelque chose de nouveau. Qu'il y avait, il y a un caractère nouveau qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a mis dans une paracha à part. Et Rashi sent que dans cette plaie-là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de particulier qui va faire craquer Paro. Dans les éléments que le Sforno et leur Achaïm nous ont dit, il n'y a rien de nouveau. Bon, rassurer les bébés d'Israël, pourquoi pas. Leur dire que ça vient de Dieu, on le savait. Leur dire que c'est pas un phénomène naturel qui vient de Dieu, on le savait aussi. Il n'y a rien de nouveau. On attend un nouvel effet spécial ici. Et il n'est pas là. C'est pour ça que Rashi dit, d'après moi, c'est pas ça. C'est pas qu'il n'est pas d'accord avec eux. C'est très beau tout ce qu'ils ont dit. C'est valable. Mais c'est pas ça le point nouveau qu'il y avait dans la plaie de Harbé et à partir duquel on va rentrer dans la ligne droite qui va nous permettre de sortir des chiffres. Maintenant, on va lire Rashi. Première ligne de Rashi. Vayomer Hachem el Moshe. Alors, d'abord, je vais lire Rashi. On va traduire et vous allez voir, on va voir ensemble que, a priori, Rashi ne veut rien dire. On va traduire pour l'instant. Vayomer Hachem el Moshe. Dieu dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Là, pour l'instant, c'est le verset. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Deux mots. Veille très beau et préviens-le. Ah ouais, on n'avait pas compris ça dans le verset. Voilà, Rashi, deux mots.
Hein. Préviens-le, je sais.
Préviens-le. Ah
je
oui.
Préviens-le.
Mais qu'est-ce qu'on fait depuis... C'est la huitième, là. Qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? Depuis maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Que dit dans le
Sefer
Torah? Lui, il dit, va le prévenir.
Ça veut pas dire ultimatum.
Va le prévenir.
Très beau.
Je sais pas. Pour l'instant, je traduis. Attendez, d'abord je vais traduire, après je vais vous montrer comment dans ces mots de Rashi se cache une réponse extraordinaire.
Avant de punir quelqu'un, il faut faire une attra.
Très bien, mais ça on l'a compris dans le verset.
Il n'y a pas besoin de Rashi là.
Ça va quoi là? Tu es venu me dire quoi là?
La même chose.
J'ai très bien compris qu'il vient pour le prévenir. Pourquoi il vient alors? Non. Il manque quelque chose, on est d'accord. Hein. Ouais. Je continue. Alors, Leman, Chiti, non, je pense celui-là on va sauter, venez. Je vais lire le pasuk bet. Et on va lire le Rashi de pasuk bet. Ulman tesaper beozne vincha uven bincha. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, lui dit afin que tu pourras raconter, que tu puisses raconter à tes enfants et à tes petits-enfants, et asher it alalti bemitzraim. Alors, et asher it alalti bemitzraim. Ce que j'ai joué en Égypte.
Je me suis moqué.
Alors, je veux pas finir le verset, parce que le mot que je recherchais, c'est le mot it'alalti moqué. Et tout de suite, je vais lire Rashi. It'alalti. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? It'alalti. Sichakti. Srok. Srok en hébreu, ça veut dire quoi?
Jouer.
Rigoler. Kemo kit'alaltabi. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi ici? D'accord? Se jouer d'eux, se moquer d'eux. Alors, vous allez voir que le rabbi explique en vérité Rashi ici, dans ces mots-là. Il se cache une réponse extraordinaire dans laquelle Rashi a trouvé la particularité de cette plaie qui a réussi à faire craquer Paro. On va essayer d'expliquer ça dans les quelques minutes qui me restent. La particularité de cette plaie, c'est quoi? En un mot, c'est que Paro a été manipulé. Écoutez bien ce que j'ai expliqué. Paro, la nouveauté de cette plaie-là, c'est que Paro a été manipulé. Pourquoi elle a été manipulée? Jusqu'à présent, chaque fois que on donnait un ultimatum à Paro. Il y avait des plaies dans lesquelles il n'y avait pas d'ultimatum. D'accord? J'ai ici la liste des plaies. Je vais vous donner la liste des plaies. Il y avait des plaies dans lesquelles il n'y avait pas d'ultimatum. C'était juste une punition. Kadosh Baruch Hu disait, puisque tu ne laisses pas partir de mon peuple, on va donner la punition. Par exemple, je vais vous donner les noms des plaies.
Ouais, mais...
D'accord? Alors.
Les
ulcères. Voilà. D'accord? Donc on a les plaies dans lesquelles la Kadosh Baruch Hu a prévenu. Il a dit, attention, date, ultimatum. Si à cette date, ça ne sera pas arrangé. Je vous aurais appelé. On a eu les grenouilles, d'accord, les bêtes sauvages, la peste, d'accord, et Harbé, les sauterelles. Ça, c'est des plaies qui préviennent. Là, il prévient.
Le sang, si.
D'accord? Non.
Il y a
eu des plaies dans lesquelles on n'a pas prévenu. Le sang. Personne n'a prévenu.
Mais c'était visuel.
D'accord?
C'est,
oui.
Mais c'est immédiat. Mais
il n'a pas prévenu. Il n'a pas dit si telle date, c'est pas arrangé, il y aura le sang.
D'accord? Immédiat. Il a tapé le...
La grêle, non plus, il n'y avait pas. La mort des premiers-nés, il n'y avait pas. D'accord, bon, etc.
Non, il a prévenu la mort du premier-né.
Ah non, attention, on va y arriver.
Dès le départ.
Il a annoncé.
Ah oui.
Il a annoncé. Il a dit, comme tu ne veux pas, donc il y aura ça. Mais il n'a pas dit, si tu n'auras, si à telle heure c'est pas arrangé.
D'accord, mais c'est une promesse.
Attention.
Bon. C'est une menace.
Alors, écoutez bien ce que le rabbi va expliquer ici. Quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit que le chidouche, la nouveauté qu'il y a dans la paracha de Bo, c'est quoi? c'est qu'à partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu va commencer à manipuler Paro. Jusqu'à présent, lorsque Akadosh Baruch Hu, il dit à Paro, il lui dit, pas par Moshe Rabbeinu, il lui dit, laisse-les partir, ou tu vas être puni. Il a endurci son cœur, mais Paro sent encore qu'il gère la situation. Donc, il n'est pas manipulé. Il n'est pas manipulé parce qu'il sent qu'il gère la situation, et que c'est lui qui a décidé de dire non. Il n'est pas manipulé. Le chidouche qu'il y a dans la parasha de Bo, c'est quoi? C'est que là, Akadosh Baruch Hu manipule Paro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est comment manipule quelqu'un? Chez Mishpah, mais comment manipule quelqu'un? On va expliquer pourquoi Dieu l'a fait. C'est que tu lui donnes une menace, et il comprend parfaitement que ça va lui tomber sur la tête, mais il comprend aussi qu'il peut rien faire. Et en même temps, il se dit, impuissant. Oui, mais j'ai envie de faire.
Il est impuissant.
Impuissant et manipulé. C'est-à-dire, il sent qu'il y a quelqu'un qui est en train de le manipuler, qu'il est comme un pion. On a bougé, on dit, bon, voilà, maintenant fais ça. Tu vois, ça va arriver, tu vas avoir froid, tu vas avoir chaud, mais tu pourras rien faire. Ça veut dire que le chidouche de cette parasha-là, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, ici, est en train de manipuler Paro. Avec ça, on va comprendre aussi, on va développer encore. Avec ça, on va comprendre comment ça se fait que, on a vu, on voit dans la suite de la parasha, c'est la première fois que les esclaves vont pratiquement se révolter. C'est un phénomène qui reviendra après dans la suite, dans la mort des premiers-nés. Un peu avant la mort des premiers-nés, on dit que les premiers-nés ont senti qu'ils allaient mourir, ils sont révoltés. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les premiers-nés se sont révoltés ici? Pourquoi, pardon, les esclaves se sont révoltés? Parce qu'ils ont senti que Paro, dans quel cas les employés se révoltent? Très bien, quand ils ont une faiblesse, ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils avaient un chef têtu. Têtu, on accepte, têtu. Ça ne nous dérange pas. Tant qu'on sent qu'il a le contrôle, tant qu'il gère, on accepte. Le chidouche qu'il y avait, la nouveauté qu'il y a ici, d'accord, la nouveauté qu'il y a ici, c'est quoi? C'est que pour la première fois, il nous dit la suite, hein, je sais pas. C'est que pour la première fois, Moshe Paro sent qu'il perd le contrôle. Et c'est pas seulement lui qui le sent, c'est également ses esclaves qui sentent que Paro, leur maître, est en train de perdre le contrôle. Avec ça, on va comprendre, nous dit Rashi, voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro et préviens-le. On s'est tous posé la question, pourquoi Rashi dit, va chez Paro et préviens-le? Ben, c'est évident, pourquoi il va y aller? C'est très simple. Parce que, quand on lit le passouk, on dit, puisque de toutes les façons, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, donc ça sert à rien d'aller le prévenir. Pourquoi Rashi rajoute les mots et préviens-le? Pourquoi Rashi rajoute les mots et préviens-le pour te dire que ici va être la vraie plaie? C'est que j'ai endurci son cœur, et pourtant, Rashi rajoute deux mots, Vehi très beau, et pourtant tu vas le prévenir. Deux mots qui ne sont pas écrits dans la Torah. Parce que pour Rashi, c'est ça la plaie. C'est quoi la plaie? C'est que j'ai endurci son cœur, et pourtant nous rajoute Rashi, Vehi très beau, va le prévenir. Mais pourtant il ne peut rien faire. C'est ça la plaie. C'est qu'il ne peut rien faire. C'est qu'il ne peut rien faire, je le manipule, il ne peut rien faire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Attendez, bonne question, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il te dit Rashi? Le Rashi, juste après qu'on a dit, « Italalti ». Qu'est-ce qu'il dit Rashi? « Sirakti », je joue avec lui. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il se joue ici de parents? Pourquoi il fait ça? C'est méchant. Laisse-les partir, fais un miracle, fais ce que tu veux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça ici? D'accord? Alors là, écoutez bien, on va expliquer, le Rabbi explique que ça, en vérité, on a ici « Mida Keneged Mida ». Mida Keneged Mida, ça veut dire qu'on a ici « mesure contre mesure ». On sait très bien que Akadosh Baruch Hu, la manière comment il punit les hommes, c'est mesure contre mesure. C'est bien ce qu'on dit en Parashat Mishpatim, œil pour œil, d'accord? Œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? On a deux points dans l'histoire, dans lesquels Paro jouait avec nous, il nous manipulait. On va expliquer. Et Mida Keneged Mida, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, tu les as manipulés, moi aussi je vais te montrer ce que ça veut dire être manipulé. La première fois qui est toute récente, qu'on voit que Paro a manipulé l'homme Israël, c'est lorsque Moshe Rabbeinu demande à Paro de laisser partir l'homme Israël. Il demande de laisser partir l'homme Israël. Paro, une fois il dit oui, une fois il dit non. À tel point qu'à un certain moment, Moshe Rabbeinu va craquer, il a dit, Al Yosef Paro, d'accord? Al Yosef Paro, Hatel. Hatel, ça veut dire quoi Hatel en hébreu? Hatel, ça veut dire qu'on joue avec quelqu'un. Vous dites une fois lui, une fois non, mais ça suffit d'être indécis. Donne-moi une réponse. Ça veut dire que Paro, dans la première fois, il y avait une stratégie. Paro, il comptait les faire craquer. Comment il comptait les faire craquer? Il comptait les faire craquer en jouant avec eux. Ça, c'est une technique, malheureusement. D'accord? Prends des photos, je vous rassure. Prends des photos, c'est pour le gala du Betlubavitch. Prends des photos de tous les Betraval. Alors, donc, je suis en train d'expliquer. Comment Paro, il comptait les faire craquer? Il comptait les faire craquer en disant une fois oui, une fois non. Et c'est comme ça qu'on manipule. Comment manipule quelqu'un, Dieu préserve? C'est comme ça qu'on manipule. Ouais, quand vous dites, je vais essayer d'expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Quelqu'un, il vous demande quelque chose. D'accord, il vous demande quelque chose. Il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me faire une course? Je lui dis oui, je lui dis non. Si je lui dis oui, bon, il n'y a pas de problème, je lui ai rendu le service. Je lui dis non, Je lui ai dit non, c'est fini. D'accord ? Donc il y a eu un dialogue, d'accord ? Il y a lui qui est là, il y a moi qui est là, il m'a posé une question, soit je lui ai dit oui, soit je lui ai dit non. Lui il reste à sa place, soit je reste à ma place. Soit je lui ai dit oui, soit je lui ai dit non. Je veux dire plus que ça. On va prendre la relation entre un maître et un esclave. L'esclave n'a plus de libre arbitre. Il a décidé que c'est fini, j'appartiens à mon maître. Donc il n'y a plus de libre arbitre, donc il n'est même plus manipulé. Ça s'appelle pas la manipulation, ça. Ça s'appelle qu'on l'a éteint son cerveau. On a éteint son libre arbitre. La manipulation, c'est encore pire. C'est quoi la manipulation ? La manipulation, c'est quand on fait croire à quelqu'un qui peut sauver la situation, et en même temps, on lui fait comprendre qu'il ne peut pas sauver la situation. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Du style, va me chercher ça, s'il te plaît, et je te fais croire que tu peux le faire. Pas l'esclave qui sait que c'est un esclave. Non, vous êtes libre, monsieur, faites ce que vous voulez, allez-y. Il y va,
mais attention,
d'accord ? Et il sent qu'il ne gère pas la situation. Mais c'est comme ça, ping-pong. Ça veut dire, hein, une fois, tantôt il a le sentiment, je gère la situation, tantôt il a le sentiment, non, je ne gère pas la situation. C'est comme ça qu'on manipule quelqu'un. Pourquoi il est manipulé ? Parce que là, il sent qu'il y a un problème. Il y a un blocage dans son cerveau. Dans la tête, c'est soit je sens que je gère la situation, soit je sens que je gère pas. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de libre arbitre, je me plie. La manipulation, c'est encore pire. C'est quand ni tu sens que tu es plié, ni tu sens que tu gères la situation. Pharao avait utilisé cette technique envers les Bnei Israël. Il a utilisé cette technique tout récemment. Lorsque Moshe Rabbeinu demande de faire sortir, Pharao a une technique, il s'était dit, une fois je vais leur dire oui, une fois je vais leur dire non, il fait exprès de faire ça. Pourquoi il fait exprès de faire ça ? Pour qu'il craque, parce qu'il sait que être esclave, ils sont déjà esclaves, donc ils sont déjà pliés, d'accord ? Leur dire oui, il ne veut pas leur dire oui, sortez. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les manipuler, comme si les Bnei Israël, ils disent, on comprend pas, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Ils veulent qu'ils craquent. Hatel, Moshe Rabbeinu avait employé ce terme. Ça c'est la première fois. La deuxième fois qu'on a vu que Pharao a fait ça, ça c'est bien plus tôt. C'était au tout début de l'esclavage des Bnei Israël. Dans la paracha Shemot. Dans la paracha Shemot. Qu'est-ce qu'avait dit Pharao lorsqu'il a senti qu'il y avait un problème démographique, les Bnei Israël commençaient à s'agrandir. Qu'est-ce qu'a dit Pharao ? Hava nitrakma lo. C'est quoi nitrakma ? Dans le mot nitrakma, on a le mot chacham. C'est quoi chacham ? Chacham, c'est quoi un chacham ?
C'est un
sage. Ça veut dire que Pharao a dit, ingénions-nous envers les Juifs. C'est Hachemichma, enfin, il n'y a pas si longtemps, on a vécu ça encore dans l'histoire. Ingénions-nous envers les Juifs. On va réfléchir. Ça veut dire qu'il y avait un plan ici. Il y avait une manipulation. Comment il a fait Pharao ? Encore une fois. On lit les Midrashim, on voit qu'il y avait exactement la même technique. En même temps, il leur a donné un sentiment de liberté. D'accord ?
Il les a servis.
Il allait travailler avec eux. Le travail rend libre. Hein, les Bnei Israël ne savaient plus où se mettre. D'un côté, ils sentaient qu'ils travaillaient. D'accord ? Donc ils avaient des comptes à rendre. Et d'un autre côté, ils disaient oui, mais on travaille pour la patrie. Et dans leur tête, ne suivait plus. Est-ce que vous voyez le problème de la manipulation ? C'est que dans le cerveau humain, il y a deux options. Soit je décide que je me tais, soit je décide que je parle. Mais quand on me dit parle et qu'en vérité on me fait taire, là il y a un problème. Ça s'appelle la manipulation. Ça, c'est une souffrance énorme pour le Bnei Israël. Pharao l'a déjà fait au moins deux fois, les deux fois que je vous citais. Des dizaines d'années plus tôt, des centaines d'années plus tôt, lorsque l'esclavage a commencé. Et maintenant, lorsqu'il demande de partir, il dit mais on veut partir. Il dit pas oui, il dit pas non. Il dit oui, on va voir, d'abord les hommes, après les enfants, après les animaux, après ci, après ça.
Il le pensait, non ?
Bien sûr qu'il le pensait, parce qu'il y avait une technique, il y avait une stratégie ici. La stratégie, c'est de les casser, de leur faire croire qu'ils gèrent la situation, alors qu'en vérité, ils gèrent rien du tout. C'est moi le patron ici. C'est horrible pour les Bnei Israël. Les Bnei Israël ne savaient plus sur quel pied danser. Et c'est pour ça qu'on a eu la réponse de Rahim, qui a dit que les Bnei Israël avaient besoin d'être rassurés. Et pourquoi elle était importante de répondre ? Ils avaient besoin de rassurer. Mais maintenant, mais où on va ? Il leur dit, vous inquiétez pas. C'est moi qui est derrière. Le chidouche qu'il y a dans la paracha de Bo, c'est que maintenant Akadosh Baruch Hu va refaire à Pharao exactement la même chose qu'il a fait au Bnei Israël. Comment il va faire ça ? C'est qu'il va lui donner le sentiment que oui, je suis toujours là, je peux gérer la situation. Vous savez, des fois, quand il y a des personnes, je préserve, ils ont perdu leur poste, mais ils pensent qu'ils peuvent encore gérer la situation. Alors qu'en réalité, j'ai rien du tout. C'est exactement Pharao. Pharao dit non, on va arranger, on est là. Mais il sent en même temps qu'il sert à rien, il peut rien faire du tout. C'est ça ce que Rachid dit. Pourquoi va chez Pharao ? Pourquoi je te demande d'aller chez Pharao puisque de toutes les façons je l'endurcis son cœur, ne va pas chez lui. Parce que justement, c'est ce que je veux. Je veux que tu ailles le voir, je sais que son cœur est endurci, et fais-lui croire qu'il peut arranger la situation. Va le prévenir, je lui dis voilà, si vous ne faites pas sortir d'ici là, voilà ce qui va arriver. En d'autres termes, vous pouvez arranger. Alors qu'en vérité, il peut pas. Il va dire, mais je comprends pas, je peux pas arranger. C'est horrible. Ah, manipulé. Non mais c'est pire que perdre la main. C'est encore plus ça. Ça veut dire que tu sais qu'il peut rien faire. Et pourtant, il vient le voir, il dit, voilà, notre ultimatum est là. Il dit, ah, il y a un ultimatum, c'est-à-dire que je peux gérer la situation, mais pourtant, je vois que je peux pas gérer la situation. Ah, mais il y a un ultimatum. Son cerveau a explosé. Et ça, les esclaves de Paro l'ont senti. Les esclaves de Paro l'ont senti. Ils ont senti qu'il y avait un problème là. Que là, il y avait quelque chose qui se cassait. Et c'est pour ça qu'on voit juste après dans la paracha, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on a les esclaves de Paro qui viennent le voir, d'accord, qui lui disent Vayomru dans le Pasuk Zaïn. Vayomru Avde Paro Elav, Admatai Iezelanu le Mokesh. C'est la première fois. Les esclaves, normalement ils sont fidèles, mais là ils ont compris qu'il y a un problème. Il se tourne vers Paro et lui dit Admatai Iezelanu le Mokesh. Jusqu'à quand ça sera comme un Mokesh? C'est quoi Mokesh en hébreu? Mokesh c'est une épine, c'est comme un. Comment on appelle ça les pièges que les soldats y mettent? C'est les. Une mine. Jusqu'à quand on aura cette mine? Ils ont senti qu'il y avait un problème ici. Des mines. Ils ont senti que le terrain était miné. Qu'on leur faisait croire qu'ils peuvent marcher, mais partout où ils avancent, ça explose. Mais ils croient qu'ils avancent encore. C'est la manipulation. Et ça, c'est le chidouche de Rashi. Vous voyez comment Rashi a dit ça j'ai lu même pas cinq mots de Rashi. Ça, c'est le chidouche de cette plaie. D'accord? Le chidouche de cette plaie, c'est qu'à partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit Mida, Keneged Mida. Tu les as manipulés, toi aussi on va te manipuler. D'accord? Donc de là, on voit. Alors, la question qu'on répond avec ça, la question de Charlie qu'il a posée au début, il a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça à Paro, pourquoi tu le fais souffrir, pourquoi tu le fais croire qu'il peut gérer alors qu'il ne peut pas gérer. C'était Mida Keneged Mida. Parce que Kadosh Baruch Hu avait promis à Avraham Avinu, voilà pourquoi, voilà le chidouche de la paracha de Boé, je pense que c'est pour ça, enfin le rabbi ne le dit pas, mais je pense que c'est pour ça que cette plaie-là commence une nouvelle paracha et que c'est dans cette paracha qu'on verra la sortie d'Égypte. Parce que c'est là le point de brisure de Paro. C'est ici qu'il a craqué. C'est ici qu'il a craqué, c'est ici qu'il a été manipulé. Après, c'est fini. Une fois qu'il a été manipulé.
Le bénéfice pour les pays d'Israël, c'est quoi?
La question revient.
Oui.
S'il est manipulé par Dieu, il n'a plus de libre arbitre.
Ah, justement, c'est la réponse. Avant, Paro n'était pas manipulé. Avant, jusqu'à présent, Paro, on l'endurcissait son cœur, mais il sentait qu'il gérait la situation. Il sentait, c'est moi qui décide.
Non, oui.
Il n'y avait pas ce sentiment contradictoire qu'il y a dans la manipulation, que d'un côté, je ne gère pas la situation, et d'un autre côté, on me fait croire que je la gère. Il n'y avait pas ce paradoxe jusqu'à présent. C'est la première fois qu'il y a ce paradoxe. Que d'un côté, on lui fait croire qu'il gère la situation, et d'un autre côté, il voit clairement qu'il ne gère pas la situation. C'est horrible. Bien sûr, on le souhaite à personne. C'est horrible.
Mais comment
c'est une technique, j'avais lu il n'y a pas longtemps.
Paro, psychologiquement, il a changé.
Parce qu'il sent.
Il a faibli.
Parce qu'il sent qu'il sent. D'un côté, il sent qu'il ne gère pas la situation, c'est déjà la huitième plaie. Et d'un autre côté, il sent qu'on continue à venir le voir. Est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Je vous donne un exemple. C'est comme si vous avez un maire, par exemple. D'accord, qu'il n'a plus aucun pouvoir, et les gens continuent à venir le voir. Voilà, on a besoin d'un appartement, on a besoin de ça. Il dit, mais attends, il explose, parce qu'il dit, mais je comprends pas, mais j'ai plus de pouvoir, qu'est-ce que vous me voulez? Mais pourtant, les gens lui font croire qu'il a du pouvoir. Ça, c'est manipulé, ça, c'est la manipulation. C'est quand on fait croire à quelqu'un qui sert à quelque chose, et de l'autre côté, on lui montre qu'il sert à rien.
Donc lui, il avait compris qu'il était fini.
Bien sûr, il a compris qu'il était fini. C'est une technique de manipulation. Chez Mishmor, jamais, mais c'est une technique de manipulation. Paro l'avait utilisé à au moins deux reprises. Akadosh Baruch Hu l'a également utilisé contre Paro, Mida Keneged Mida. On s'arrête ici. Vous voyez, quatre mots de Rashi. Préviens-le. C'est ce que Rashi dit. C'est quoi la maca? C'est préviens-le. C'est que j'ai endurci son cœur, et qu'est-ce qu'il rajoute Rashi? Et préviens-le. J'ai endurci son cœur, préviens-le. Donc manipulation.